à visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Bey.
Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous d'information à visage découvert. Vous êtes bien à l'écoute des programmes de Radio Orient. Et dans Un visage découvert aujourd'hui, on vous amène à Pleine Commune. Oui, à Pleine Commune, l'une des premières intercommunalités de la région parisienne. Pleine Commune, en Seine-Saint-Denis, qui regroupe, il faut le dire, 450 000 habitants. Oui, 450 000 habitants, avec des enjeux de taille, des enjeux majeurs, aussi bien sur le plan économique que politique. Pour en savoir plus sur cette puissante intercommunalité, justement, ses prérogatives et surtout, bien sûr, les retombées très attendues par les habitants du 93 qui réclament plus de transparence dans la gestion de cette structure publique. Justement, avec nous pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir d'abord une femme qui vient pour la première fois dans nos studios. Il s'agit de Madame Sophia Boutry. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Sophia Boutry, une femme connue, un nom connu dans le 93. Vous êtes née d'ailleurs à Saint-Denis, c'est bien ça.
Tout à fait.
Vous avez aujourd'hui 37 ans, très jeune. Hein. À la tête, elle dirige la fameuse grande fête de l'UMA. Mais lors des élections récentes municipales, elle est donc adjointe avec sa casquette PCF. Elle n'a pas changé de casquette entre-temps, n'est-ce
non,
pas
Non, 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 je la garde.
Fidèle.
Fièrement.
Donc, bien entendu, elle est aujourd'hui adjointe chargée de la culture, de l'événementiel, bien sûr, plein, tout un programme, j'ai envie de dire. Alors, vous êtes de famille issue de l'immigration, on va dire ça comme
oui.
ça. Votre papa, d'origine marocaine, est arrivé à l'âge de 14 ans.
Oui, il est arrivé très jeune, mon père.
Très jeune, il a travaillé très jeune. Il a dû tricher justement sur son âge pour pouvoir travailler à 16 ans.
À l'usine, c'est ça.
Il est arrivé
du Maroc et comme il était très grand gaillard, il a pu très facilement mentir un petit peu sur son âge pour
il
pouvoir travailler.
Âge, en fait.
Il faisait pas son âge.
Ouais.
Et il a travaillé dans une usine de fonderie. Au début, il partageait les espaces pour dormir.
Ouais.
Et puis petit à petit, il a ensuite amené ma mère ici en regroupant familial avec
le
mes frères.
Le regroupement familial,
exactement.
Ça vous parle. Et ils sont venus du sud du Maroc, d'une
oui,
belle
on
région,
est du sud, nous, on est de Tafraout.
De
on
Tafraout.
Est des Chleux, comme on dit.
Berbères
marocains du sud.
On comprend justement cette énergie que vous avez et cette fougue, j'ai envie de dire, que vous avez toujours eue.
Merci.
Donc, Saint-Denis, c'est votre ville qui vous a accueilli il y a déjà longtemps et vos frères et vos sœurs sont nés également à Saint-Denis.
C'est ça. Mes deux grands frères sont nés au Maroc, mais en tout cas, mon petit frère et moi, on est nés à Saint-Denis. On y a fait toute notre scolarité et ils y habitent encore. On
voilà.
est toujours présents.
Alors, sur ma droite aussi, quelqu'un qu'on connaît à la radio, puisqu'il a fait ses premières radios avant même qu'il soit élu à la tête de Villetaneuse. Dionor Excellent, bonjour.
Bonjour Nadia, et merci pour ces retrouvailles et pour cette belle invitation. Ça fait un petit moment qu'on devait se revoir.
Ben voilà,
et ça
on
y
se
est,
retrouve,
enfin,
justement, on a
sommes.
Suivi de très très près justement votre campagne, comme toujours. Oui. On vous a vu sur le terrain.
Toujours.
Bien entendu, vous vous êtes battu comme un lion.
Oh, ben, si vous saviez.
Ah ben oui, on sait tout, on sait tout. On a aussi des relations et des amis qui habitent Villetaneuse et votre élection est hautement méritée. Vous êtes né donc en Haïti, c'est bien ça ?
On y fait, en Haïti.
Et c'est la Guyane française qui vous a accueilli après ?
J'ai débarqué à l'âge de 4 ans
en Guyane.
Ma première terre adoptive,
voilà.
Puis à Villetaneuse, à mes 18 ans, pour poursuivre mes études. Deuxième terre d'adoption,
voilà.
Plus précisément à Villetaneuse, en 96,
voilà.
Dans une belle résidence universitaire, logement social étudiant. Paris 8, Paris 13, l'université
populaire. Et qu'est-ce
populaire.
Qui a motivé votre engagement en politique, justement ? Parce que comment cet engagement vient ? Enfin, la question vous est posée pour vous deux, quoi. Comment on a envie de devenir maire d'une ville ? Pas facile, quoi, je veux dire.
Moi, mon engagement, il est arrivé assez naturellement. Je n'étais pas du tout engagée en politique très jeune, notamment quand j'étais à la fac, en fac de droit. Par contre... Très jeune, en étant déléguée, en accompagnant ma mère, par exemple, dans les démarches administratives, j'ai, J'ai très vite vu l'inégalité de traitement et les discriminations qu'il pouvait y avoir.
Est-ce que vous les avez vécues,
et la
ces
question, discriminations ? Oui, bien sûr, ouais, je les ai vécues, bien sûr. Je les ai vécues, j'ai vu mes parents les vivre et d'autres. Et c'est vrai que cette envie d'être utile, de faire en sorte que cette devise qui est la nôtre d'égalité d'abord et puis après de liberté, de fraternité, mais en tout cas l'égalité, quand on sait que nos territoires sont victimes de ruptures d'égalité très avérées, et ben ça m'a lancée dans une carrière en droit, puis en droit international, etc. Et j'ai croisé dans mon parcours Patrick Brahozek.
Ouais.
En 2012, où j'ai découvert à ce moment-là, après ce qui était ancien maire et le député, et j'ai découvert de manière beaucoup plus concrète l'engagement politique local. Politiquement, j'avais déjà une vision des différents débats politiques ou économiques, mais en tout cas localement, c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic et j'ai voulu être utile à ma ville et pouvoir changer les choses. Enfant du communisme
municipal. Changer les choses, c'est
faire
de cette devise, c'est justement une réalité, mais elle l'est toujours pas aujourd'hui, hein, dans le 93. Hein.
Elle l'est pas, mais elle doit l'être. Et c'est à nous, en tant que porte-parole aussi, de pouvoir le dire et de rappeler à l'ordre, que ce soit l'État ou d'autres, de faire respecter cette devise. Et c'est notre rôle. Je pense que c'est l'engagement des élus. Pas que des élus, il y a aussi des associations, il y a aussi des acteurs
civile,
exactement, qui sont aussi très présents. Mais ça fait partie de notre engagement.
Alors, comment est né cet engagement, Dionne?
Au début, ce n'était pas écrit d'avance, ce n'était pas prévu, parce que je ne suis pas un héritier d'une famille politique. Mes parents étaient dépolitisés, mais parce que premièrement, ils n'avaient pas le droit de vote. Moi, arrivé à Villetaneuse, j'avais une carte de séjour, hein, donc jamais j'ai voté de ma vie. Et après, j'ai entamé une démarche de naturalisation, parce que j'avais clairement compris que je ne retournerais pas vivre en Haïti. En Guyane, c'est un département français. Et finalement, c'est par le biais de l'action associative. Je me suis beaucoup investi dans des associations de quartier, lutte contre l'échec scolaire. Donc, on a fait beaucoup de soutien, de devoirs, d'accompagnement des familles, l'aide dans les démarches administratives, et puis surtout, en gros, travail autour du devoir de mémoire. Parce que moi, quand je débarque à Villetaneuse, je ne savais pas d'où je venais. Parce que l'histoire de l'esclavage, c'est très tabou chez nous, en Guyane, on en parlait très peu.
Ouais.
Et moi, j'ai fait cette quête de me décentrer, de savoir d'où je viens, qui je suis, mon histoire même, l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Et je me suis approprié un petit peu tout ça. Et puis je me dis, finalement, je suis utile sur ce territoire. Et j'ai tout de suite compris la nécessité de cette utilité aux yeux de mes concitoyens qu'en faisant le champ scolaire.
Donc c'est votre
et
histoire
puis,
perso
par
le
fait
qui est
du hasard, j'avais adhéré
votre
à
combat
des mouvements
politiques,
tout à fait. Et lors de ma première représentation, une élection, c'était dans le cadre d'une législative.
Ouais.
En toute attente, j'ai réalisé un score de 15%. Dans ma ville, je suis arrivé troisième, et des très gros scores dans les bureaux de vote. Je me suis dit, le travail de terrain que j'ai toujours effectué parle à nos concitoyens. Et en fait, finalement, j'ai compris que, oui, j'étais représentatif aussi de mes concitoyens et qui m'ont fait confiance. Et au fur et à mesure, je me suis présenté à toutes les élections, de législatives,
trois
municipales.
Vous avez été élu dès le premier tour. On rappellera votre casquette politique, parce que vous n'aimez pas qu'on vous définisse comme socialiste, divers gauche, alors que vous l'avez été à un moment donné.
J'ai adhéré à des partis politiques de gauche, le Parti Socialiste, le Parti Radical Gauche, mais j'étais très vite en rupture de banc dans la méthode, dans la façon d'attendre son tour. Et j'ai toujours considéré que le meilleur parti pour quelqu'un qui s'engage, c'est les habitants, c'est le terrain.
Ouais.
Et ces institutions m'avaient éloigné du terrain. Donc je préfère être avec les gens en direct. Traité en direct, et c'est très bien comme ça.
Et pour ces dernières municipales, justement, la tâche était un peu ardue, parce que vous auriez pu passer dès le premier tour, comme ça l'a été.
Cinq listes de gauche, avec une volonté de me faire perdre. Mais ce qui m'a permis de gagner, c'est la confiance de mes concitoyens, parce que tout le monde attendait à ce que je gagne dès le premier tour.
C'est ça.
Voilà, il y avait des forces communistes, insoumises, toutes les couleurs de gauche, et c'est très bien dans cette diversité. En même temps, ce qui était intéressant dans cette élection, je l'avais dit pendant la campagne, je considère que je n'avais pas démérité par rapport à mon projet politique, le bilan du mandat, 80% de réalisation, voire plus, on pourrait parler de ce qu'on investit. Bilan positif, un maire de terrain. Et pendant cette campagne, je n'ai rencontré personne, mais vraiment, Nadia, personne qui m'a dit « Monsieur le maire, on vous voit parce que c'est les élections ». Au contraire, On m'a toujours vu, et je suis encore sur le terrain, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais devant les écoles.
On vous voit sur les réseaux sociaux, vous êtes omniprésent.
Tout à l'heure, j'étais avec le président Bali Bagayoko pour visiter le chantier de cette belle piscine qui va être livrée d'ici début d'année 2027. C'est le terrain qui paye, et c'est la confiance de nos concitoyens. Donc c'est ça qui m'a permis d'être réélu, parce qu'on taffe, on est avec les gens, dans tout. Les bons comme dans les mauvais moments, ça taffe.
Alors, et vous me tendez la perche justement pour parler de Bali Bagayoko. Le 21 avril dernier, eh bien, le nouveau maire de Saint-Denis a été élu à la tête de pleine commune. Un match, il faut le dire, qui a été un match serré, hein, qui a opposé deux poids lourds, hein, qui a porté donc deux poids lourds. Mais c'est quand même une fonction, en fait, et un titre surtout, convoité par les deux poids lourds. Il s'agit de Karim Bouamran, maire de Saint-Ouen, que nous avons eu le plaisir de recevoir d'ailleurs, et bien sûr le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Vous étiez présent.
Tout à fait, bien sûr.
Ils ont cogné les deux ?
Bah, il y a eu un temps de débat, j'ai trouvé ça plutôt sain, à la fois des deux candidats qui s'étaient présentés, et puis de l'Assemblée avec différents élus, même maires aussi, qui se sont exprimés pour le soutien ou de l'un ou de l'autre, ou de rappeler aussi quel est le rôle de cet outil, de cette coopérative de ville, de rappeler les intérêts que chacun ont et le respect de cette entité. Donc je pense que c'était sain, c'est une autre... un autre niveau de démocratie, parce que là, c'est pas une, y a pas d'élection directe, hein, c'est une élection, on va dire, indirecte. Ce sont des élus.
On a parlé d'un troisième tour.
C'est ça, exactement. Ce sont des élus des différents conseils municipaux des 8 villes de pleine commune qui sont représentés à pleine commune et qui ont ensuite voté pour le président. Moi, j'ai trouvé ce moment particulièrement intéressant quand on a vécu, moi j'avais vécu en 2020, c'était l'élection du coup du président Mathieu Hanotin, il n'y avait qu'un seul candidat et ça faisait un petit consensus, donc le débat n'est pas le même à ce moment-là.
On imagine. Mais en fait, le débat n'est pas le même et quand on voit le nombre de voix, c'est 46 voix contre 32 pour le maire de Saint-Ouen. C'est très serré, je veux dire. Hein. C'est pas... L'écart n'est pas énorme, Dionor Excellent.
Oui, en effet, moi je pense que c'était nécessaire. On n'est pas dans ce consensus un candidat unique qui rassemble et qui permet de dégager une gouvernance. Il y avait quand même des sujets aussi. Mais en fait, cette campagne des municipales était très politisée. Il y avait un contexte aussi. Il y avait quand même versus, il y a eu des batailles PS, France Insoumise, il ne faut pas l'oublier. La Courneuve, Saint-Denis, M. Bagayoko gagne dès le premier tour. Ce n'était pas prévu non plus ainsi.
61%,
donc de facto, il y avait deux blocs. Après, le fait démocratique fait qu'il y a eu des discussions, il y a eu des visions qui ont été proposées. Mais la seule chose que je peux vous dire, moi, je reviens là encore d'un échange avec Karim Bouamran, que je salue, Bali Bagayoko, que je salue. On va travailler dans l'intérêt du territoire, c'est ce qui compte. Mais c'est très bien, moi, je pense qu'il y a eu ces deux positionnements qui sont le fait aussi du contexte de l'élection municipale qui a eu lieu. Et c'était normal qu'il y ait ce... C'était pas un combat de coq, parce que souvent, moi, je m'inscris en faux sur le fait d'animaliser en permanence quand il y a des débats d'idées de fond.
Ça renvoie quand même
cette
image.
Il y a eu un débat, c'est pas des coqs, ce sont des êtres humains, ce sont deux hommes politiques, vous l'avez dit.
Mais c'est un combat politique.
Voilà,
on a l'impression de l'extérieur que deux gauches se font la guerre, n'est-ce pas?
Alors ça, on est dans un territoire assez particulier, et d'autant plus dans nos villes.
C'est quoi la spécificité?
La spécificité, c'est que la droite n'est pas forte dans notre territoire de pleine commune. Par exemple, je prends le territoire globalement, quand je vois notamment, moi je parle de la ville que je connais le mieux, qui est Saint-Denis, on a depuis très longtemps une confrontation à gauche, du plus progressiste au plus social-démocrate, etc., avec des projets qui sont proposés et qui sont parfois différents, parfois qui sont dans la continuité de l'une ou de l'autre force. Donc c'est je pense cette spécificité-là que l'on a dans notre territoire. On n'a pas de droite très forte. Donc on va dans un projet politique le plus progressiste, le plus en lien sur les politiques sociales aussi, mais aussi économiques, c'est pas un tabou.
Vous êtes en train de nous dire que, en fait, les LFIs ne sont pas... sont fréquentables au niveau local. Il n'y a pas de guerre réellement.
Non, évidemment qu'il y a un travail qui est commun.
Ils sont capables de travailler la main dans la main.
Évidemment, parce que de toute façon, quand vous prenez...
Alors, à l'échelle de la ville, peut-être non. Il y a eu cette élection municipale qui a tranché, à Villetaneuse aussi, pareil. Moi, je n'ai pas eu le soutien de la France. Au contraire.
Bien sûr, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas le soutien.
Les méthodes ne sont pas les mêmes, d'un territoire à l'autre, malheureusement.
Et dans chaque ville, les méthodes ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, dans un parti en tant que tel, les méthodes des socialistes de Saint-Ouen ne sont pas forcément mais les mêmes que les socialistes de Saint-Denis.
Est-ce que justement la suite va peut-être nous révéler l'inverse? Est-ce qu'il y a des choses à craindre? Qu'est-ce qui peut les opposer Bali Bagayoko à Karim Bouabran
Mais je pense qu'il y a un sujet d'un débat à l'échelle nationale. On sait très bien qu'aujourd'hui, Karim Bouabran n'a jamais caché sa position contre la méthode ou le programme de la France Insoumise. Ça a été, toujours été clair. Ouais. C'est son opinion, c'est son point de vue qu'il défend.
Ce qui a fait dans la dernière instance là, qu'on a eue, le conseil d'installation, c'était un moment hyper politisé. Bali Bagayoko et Karim Bouabran sont deux personnalités politiques très importantes aujourd'hui de par leur parcours et les différentes positions et les résultats qu'ils ont eus. Donc forcément, il y a eu une politisation importante et surtout qui a un peu nationalisé un peu le sujet et qui a fait une confrontation des deux forces politiques et des deux personnalités. Mais en fait, l'intérêt que l'on a, ils l'ont très bien dit aussi, et je me souviens du discours aussi de Bali Bagayoko et de la discussion qu'on a eue, ça correspond à l'échange que vous avez eu, monsieur le maire, avec le président tout à l'heure, c'est qu'il y a un projet aussi dans l'intérêt des habitants de ce territoire, que vous avez dit, madame B, sur les 450 000 habitants de ce territoire.
Alors, justement, dans la deuxième partie de l'émission, on va revenir sur pleine commune, les prérogatives et bien sûr les enjeux de taille et bien sûr les attentes des 450 000 habitants. Restez avec nous, on marque une pause. Et vous pouvez suivre d'ailleurs l'intégralité de l'émission dès ce soir, donc à 22h, et une rediffusion programmée samedi à 9h du matin. Et on vous souhaite une très bonne écoute. Restez avec nous.
À visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Bey.
Retour sur le plateau de l'émission À visage découvert qui vous fait découvrir aujourd'hui deux visages du 93, le maire de Villetaneuse, Dionor Excellent, et la vice-présidente de pleine commune, Sophia Boutry. Rebonjour.
Bonjour.
On va continuer bien sûr notre débat. On l'avait entamé justement dans la première partie sur pleine commune. Beaucoup de gens ne savent pas à quoi sert effectivement cette structure publique. Elle gère quelque chose comme 450 000 habitants, rien que ça. Voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle rassemble, on l'avait dit, 9 villes. Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, Ligne-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, bien sûr, Saint-Ouen, Saint et Villetaneuse. C'est dire, c'est la plus importante d'Île-de-France. On est dans un département du 9-3. Les prérogatives sont de taille. Vous êtes pas la première femme vice-présidente qu'il y en a eu avant, mais vous êtes la nouvelle vice-présidente de pleine commune. Dites-nous justement les...
La première vice-présidente.
Première vice-présidente,
ouais,
tout à fait.
Justement, la première. Donc, il y en a eu avant.
Alors, des femmes, on vote toujours le président et la première vice-présidente, mais lors du dernier mandat, c'était un homme de l'île Saint-Denis, monsieur Monge, et puis avant, oui, il y avait, si je ne me trompe pas, l'ancienne maire de Villetaneuse, je crois, Karine Juste, qui a été sous Patrick Brahosek, première vice-présidente.
C'est
l'histoire, on est transparent.
Dionor Excellent veut faire de vous la première femme vice-présidente de pleine commune, on a bien compris.
Sous l'ère Bagayoko.
Alors, sous l'ère Bagayoko, il va se passer beaucoup de choses au sein de pleine commune. Dites-nous en un mot, c'est quoi pleine commune?
Pleine commune, c'est une coopérative de villes, c'est-à-dire ce sont plusieurs villes qui ont des projets communs, enfin qui ont un territoire délimité, qui mutualisent leurs moyens pour pouvoir développer des grands projets comme la question du logement, comme la question des aménagements extérieurs, des grands parcs, la rénovation urbaine. Ce sont en somme des compétences qui se sont agrégées au fur et à mesure des mandats, qui coûtent très très cher, qui permettent à des petites villes de pouvoir bénéficier aussi de moyens mutualisés pour avoir les mêmes équipements que les autres villes qui sont à côté.
Concrètement, ça veut dire réduire les inégalités territoriales.
Exactement,
c'est ça,
oui, et tendre vers une solidarité aussi en fonction des projets aussi de chacun des maires. Ouais. Mais je donne l'exemple, par exemple, des lectures publiques, qui est une des compétences de l'agglomération, des médiathèques. eh ben, cette politique des médiathèques dans l'ensemble des territoires, ça permet à une ville comme Villetaneuse, Stain, Pierrefitte avant la fusion, de pouvoir avoir des équipements aussi de lecture publique, culturelle et sociale du même acabit et du même niveau que des grandes villes. S'il n'y avait pas cette mutualisation de moyens, ça serait beaucoup plus difficile avec les simples dotations de l'État pour des communes plus petites.
Qu'est-ce que vous appelez les simples dotations, justement? Donnez-nous un chiffre. C'est quoi le budget de pleine commune? Parce qu'il y a de l'argent quand même à
pleine commune, c'est, si je ne me trompe pas, c'est à peu près plus de 300 millions d'euros en fonctionnement et à peu près 180, 190, je crois, un petit
alors
peu moins.
En fonctionnement, on est à 266 millions à peu près, en tout cas sur le budget 2026 qui 26. A été voté, oui. Et à 190 000 sur du fonctionnement. Et c'est vrai que cette capacité à porter des investissements majeurs, oui. Et l'exemple qu'a donné Sophia est réel. Hein, on prend l'exemple de la compétence qui a été transférée, les piscines.
Oui.
Villetaneuse n'a pas les moyens de porter une piscine, un projet en investissement qui est à 19 millions et en fonctionnement à 800 000. Mm-hmm. Et je parlais de la visite justement de ce beau chantier. Peu importe la couleur politique, le président, le projet est à l'échelle intercommunale. Donc j'ai reçu aujourd'hui M. Bali Bagayoko qui a visité ce beau chantier dont les gros œuvres sont quasiment terminées.
La prochaine donc, piscine, c'est à quand là
c'est, oui, mais c'est un équipement pleine commune qui n'était pas le cas avant.
D'accord.
Et cette solidarité aussi intercommunale, elle est fondamentale parce qu'il y a des investissements qu'on ne peut pas porter. C'est aussi l'aménagement, l'urbanisme. Et souvent, on pense que c'est des choses qui sont évidentes. Non, parce que c'est des gros investissements. On y est sur des plus de 30 millions d'euros. Sur l'ANRU, par exemple, pleine commune participe sur ces projets d'aménagement. Et pas que les petites villes. C'est vrai que qu'on mutualise, on a cette capacité
d'avoir plus,
d'avoir plus de moyens, de ressources. C'est aussi les financements des
sauf
villes
que quand on a
qui transfèrent
justement
aussi des compétences et aussi des recettes pour financer
alors, permettez-moi
ces compétences mutualisées.
Parce que, justement, je suis une femme de terrain et quand on approche justement les habitants, ils n'ont pas vu ces changements arriver. Vous l'avez dit, l'ANRU, c'est depuis 2003.
Bah avec la loi NOTRe, c'est 2016.
Il y a eu l'obligation
des villes de se regrouper en EPT.
De l'argent et de l'argent et de l'argent. Et les habitants n'ont pas vu les changements, même en termes d'habitation. On parle de rénovation urbaine. Ils n'ont pas vu la
moi,
rénovation
urbaine. Moi, je ne suis pas d'accord
urbaine.
Avec vous.
Non, mais ce n'est pas moi. Ce sont les habitants
qui auraient souhaité. Oui, mais il faut prendre des exemples concrets.
Justement, concrets. Alors, ouais, des habitants qui auraient souhaité acheter un appartement. Ils n'ont pas pu le faire parce que l'ancienne direction a privilégié les gens qui avaient les moyens d'acheter, pas les locaux, malheureusement.
Alors, c'est compliqué dans les projets de rénovation urbaine, par exemple, vendre du logement qui n'est pas forcément en très bon état aux propres locataires, parce qu'il y avait eu à un moment cette idée de se dire, bah, au lieu d'être locataire, pourquoi est-ce que je n'achèterais pas mon propre logement ?
Exactement, vous devenez propriétaire.
Dans le parc social d'un bâti déjà ancien.
Oui.
Et ça, c'est en réalité la fausse bonne idée. On l'a vu avec un exemple aussi, notamment à Grigny.
Oui.
À Grigny, ça a été ça. Ça a été des rachats qui ont été faits d'anciens logements qui appartenaient à un bailleur et puis du coup qui ont été rachetés par les locataires, c'est de l'habitat indigne de demain. Donc il faut faire attention à ce qu'on propose à l'achat pour les locataires et pour les habitants des quartiers populaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils achètent, au contraire, si, il y a des outils qui sont faits.
Alors, question très simple, comment on peut devenir
solidaire.
Propriétaire justement, on peut
devenir
à Saint-Denis ou à Villetaneuse. Comment on peut devenir propriétaire?
À Villetaneuse, il y a la
commission
d'accession sociale à la propriété qui s'appelle la CAPS, qui est gérée par l'Office public pleine commune Habitat. D'ailleurs, on a un magnifique projet à Villetaneuse, là, qui est en train d'être construite, où on a considéré que sur un plot de 67 logements, on y consacrait une vingtaine à l'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire que les habitants du territoire, qui sont quand même privilégiés pour acquérir, sont accompagnés dans une démarche locative dans un premier temps. Ils sont accompagnés pour trouver un financeur, une banque en gros, qui leur
banque,
permet d'avoir un crédit. Et Pleineco, on va dire le dispositif coopératif, les accompagne à trouver le crédit.
Ouais.
Et s'ils n'arrivent pas à trouver une banque, ils restent quand même locataires dans le logement social. Donc on les accompagne progressivement.
C'est pas d'habitat indigne, comme
c'est
disait
Sophia.
C'est du neuf.
Avec la mixité sociale associée à l'accession.
La CAPS dont parle Dionor, c'est un outil qui a été créé à l'époque par l'ancien président de Pleine Commune, qui était Stéphane Peu, dans le cadre aussi de ses missions à Pleine Commune. Et c'était un outil qui permettait d'avoir de la production de logements.
De
pleine commune Habitat, oui.
Oui, de pleine commune Habitat, oui.
Via ses compétences de pleine commune, de construire du logement, mais du construire du logement avec différentes offres. Vous avez du logement social, différents types de logements sociaux, de l'accession simple avec des propriétaires venant de l'extérieur ou autres, et de l'accession sociale, comme disait Monsieur Excellent, sur de l'accompagnement avec une priorité pour les locataires du logement social qui souhaitent acheter. Et il y a un accompagnement au fur et à mesure. D'abord, on loue et ensuite, on achète, on accède avec des critères. Avec aussi,
desquels ? Dites-nous tout.
Bah, hein, des critères, c'est-à-dire il y a des critères de ressources, il y a un accompagnement
aussi.
Il faut être solvable. Il faut s'engager aussi à habiter dans ce logement. C'est un achat pour y vivre et non pas pour investir, c'est-à-dire pour faire de la location plus tard. Il est possible de faire de la location plus tard, mais entre 10 et 15 ans d'occupation. Donc, c'est quand même réglementé. Et ce sont des programmes qui sont, on appelle ça des programmes mixtes pour de la mixité sociale, où on mélange effectivement toutes les offres de logement. Et ça existe, ça se développe sur tout le territoire.
Avec un prix moins cher à l'achat en entrée.
Alors, vous faites partie de la nouvelle équipe. Vous avez été élue fraîchement donc vice-présidente, plein de communes. On va pas parler d'avant, on va parler de l'avenir. Quelles sont vos priorités aujourd'hui ? Un axe, par exemple, une action phare. Qu'est-ce que vous pouvez nous citer, justement ? Qu'est-ce qui fera la différence entre l'ancienne équipe et la nouvelle ?
Alors, j'en dirais une et demie, si vous me le permettez. En tout cas, ça va être la question de la quotidienneté et de la proximité. On a un véritable enjeu sur la propreté et l'accompagnement aussi, les moyens qu'on peut mettre dans les aménagements urbains, extérieurs, que ce soit la voirie, mais aussi les espaces verts. Ouais. On a besoin d'avoir des moyens renforcés sur à la fois les outils, mais aussi de RH, parce que ce sont des métiers qui sont parfois difficiles en extérieur, qui permettent d'améliorer concrètement la vie des gens, c'est-à-dire qu'un habitant, quand il sort en bas de chez lui, devant chez lui, et qu'il voit que c'est propre, que c'est aménagé, que le trottoir est bien fait, et qu'il y a un joli espace vert, c'est pleine commune.
Donc c'est pleine commune, et vous allez engager bien sûr d'autres agents. Je sais que c'est 22 000 agents déjà, pleine commune,
C'est 22 000 agents, on en a 600 en proximité, sur la proximité, propreté, cadre de vie. Il y a plusieurs unités, c'est une très grande machine, c'est très bien organisé. Mais effectivement, il va falloir aussi regarder quels sont les moyens. Il y a les moyens humains, mais aussi des moyens d'équipement, c'est-à-dire des machines aussi. Ça coûte très cher, il y a toute une logistique, c'est aussi ça qu'il faut engager. Donc ça, c'est un des premiers points. Et le deuxième point aussi qui est important, c'est que il faut un territoire qui réponde aussi aux besoins des habitants. Moi, ce que je critique un petit peu de l'ancienne mandature, c'était qu'on avait un président qui était dans une stratégie politique de marque de pleine commune, d'attractivité du territoire, avec une surspécialisation notamment sur la question de l'hôtellerie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'hôtels dans nos territoires, parce qu'en plus on est un territoire d'événements, d'accueil.
Il faut
de quoi accueillir aussi, même sur le tourisme, des personnes, mais sur spécialisé, on a vu ce que c'est. Il faut réussir à aussi construire du logement avec des lieux d'accueil diversifiés.
Mais pendant cette campagne, ces habitants, vous les avez rencontrés. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement ? Est-ce que vous avez entendu des habitants vous dire, mais écoutez, on ne nous parle jamais de pleine commune, on ne sait pas ce qui se passe, c'est pas transparent, c'est entouré d'opacité, mais totale.
Alors, ce n'est pas la problématique de la transparence, c'est la problématique de comment on fait connaître cet outil.
Comment vous communiquez là-dessus,
justement ? Et pour revenir sur les sujets prioritaires. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que dès lors où on est sur les enjeux, on arrive à nous, les maires, les élus de proximité, expliquer l'importance de pleine commune. Moi, je me souviens qu'il y avait un débat sur la piscine. Certains candidats ont fait courir le bruit que, Dieu n'aura excellent, le futur maire ou le maire actuel, il allait donner la piscine à pleine commune, ça allait pas être un équipement pour la ville, voilà, démagogie totale,
vous êtes d'accord. Ils avaient très bien compris, sauf que nous,
on a une responsabilité en tant qu'élus de communiquer mieux sur le rôle de pleine commune. Les médiathèques, c'est quelque chose qui est assez bien perçu, parce que tout de suite, les gens ont vu la différence entre les orientations aussi en termes d'offres culturelles, aménager des grands espaces avec des ludothèques, de l'outil numérique. Quand on arrive dans une médiathèque, avant, c'était des bibliothèques. Il n'y avait que des livres.
C'est ça.
Et quand vous arrivez dans un nouvel espace, je vous inviterai à venir à visiter la médiathèque Annie Ernaux, qu'on a reçue à plusieurs reprises.
J'ai assisté à l'inauguration de cette belle
magnifique
médiathèque. Je me souviens, Nadia,
quand vous venez dans cet équipement, vous n'avez pas l'impression que vous avez accès qu'aux livres. Donc, il y a d'autres outils d'information, de communication, des espaces aussi qui permettent d'accueillir des spectacles, de l'événementiel. Donc là, on change complètement d'outils. Donc oui, cette politique publique, lecture publique est bien perçue. Aujourd'hui, on a mené un travail aussi sur l'aménagement et l'urbanisme. Parce que ça, on l'oublie, les parcs, jardins, l'espace public. Et je suis d'accord avec Madame Boutry, c'est que nous, une des priorités, c'est que les rues soient propres, les trottoirs soient propres, l'espace public soit bienveillant, surveillé, propre,
éclairé.
Et sécurisé, éclairé. L'éclairage public, c'est un vrai enjeu, malgré le coût de l'électricité, il faut continuer à éclairer. Donc là-dessus, on a une responsabilité de mieux faire connaître cet outil.
Et des villes plus sécures aussi, il faut en parler, parce que le 93,
bien sûr, mais la sécurité, c'est pas un tabou.
Et
bien
pour
sûr,
conclure sur le faire connaître Plenco, moi je peux vous dire, l'enjeu du savoir nager, vous avez reçu Stéphane Troussel à plusieurs reprises, ou Mathieu Hanotin sur ces questions, c'est quelque chose qui a été porté dans le cadre aussi des JO, et on va y arriver parce qu'enfin, nous avons cette capacité d'avoir mutualisé cette compétence et qui permet aujourd'hui de pouvoir permettre à un habitant, peu importe où il habite, parce qu'on a toujours eu cette inégalité en termes de dotation, d'équipement entre
sportif,
le nord et le sud.
Sûr.
On l'a toujours dit, Villetaneuse et Stains étaient les villes les moins dotées, les moins, pas considérées, mais qui avaient le moins d'équipement, d'investissement à l'échelle de l'EPT. Et aujourd'hui, on arrive à aller vers cette inégalité territoriale, ce qu'a apporté aussi la présence de Mathieu Hanotin. Il faut tout pour faire un plein commune. Il faut aussi de l'attractivité, aussi de la proximité et aussi des projets d'aménagement urbain ambitieux. Et je pense que c'est la continuité qui va se faire aussi
mais
avec la présence de M.
Balibagayoko. Juste pour répondre à votre question tout à l'heure rapidement, la difficulté qu'on a, ce n'est pas une question de transparence ou non sur plein commune, c'est qu'il y a trop, il y a des compétences différentes et les habitants parfois ne savent pas qui doit faire quoi. Et donc il faut une lisibilité un peu plus claire.
Comment
c'est
vous
à nous
la voyez
de faire ce travail.
Justement, je sais que vous êtes très engagé sur la démocratie participative.
C'est ça.
Comment participer, faire participer le citoyen, l'administré justement à ces décisions qui se font et qui se prennent au niveau de pleine commune.
Il faut le faire participer. Il y a quelque chose qui existait, qui a été supprimé, mais qui peut revenir. C'est le conseil de développement. C'était une instance qui n'est pas obligatoire, mais qui existe pour les conseils de territoire, qui permet de faire participer des habitants à des gros projets, des discussions de gros projets du territoire et de participer aussi à la préparation des différents conseils de
comment
territoire.
Comment ça se fait concrètement et ça vous allez les chercher comment ces citoyens? Ils sont élus, ils sont choisis,
c'est souvent, vous avez c'est à nous de le mettre en place, mais ça se fait un peu comme les conseils citoyens. Vous avez une partie qui est du tirage au sort, une autre qui a un équilibre aussi entre les villes, des acteurs associatifs représentatifs des différents sujets, sur les parties écologiques, sur la partie de l'eau, etc., qui sont des sujets du territoire, et puis du volontariat, pourquoi pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de pas penser que quelqu'un qui vient et qui s'intéresse est forcément c'est forcément du copinage. On a de moins en moins de gens qui s'engagent, donc faisons attention aussi aux personnes qui sont volontaires et accompagnons-les pour qu'ils puissent intervenir aussi dans l'action publique comme nous on le fait sans forcément les repousser.
Alors pleine commune, c'est aussi justement engager tous ces citoyens, ces acteurs qui ont effectivement des projets sociétaux. Hein. Comment les impliquer dans les changements qui peuvent intervenir sur leur propre territoire,
par exemple
à Villetaneuse.
Alors concrètement, nous à Villetaneuse, déjà je tiens à remercier les 2200 agents, parce que Mme Boutry disait 22 000, mais on est plus dans les 2200 agents.
J'ai pas dit
2200,
22 000.
C'est 2200.
Et c'est pas rien, parce que c'est aussi de l'emploi local. Oui. Et aujourd'hui, il y a un vrai enjeu aussi à faire en sorte que ces emplois puissent être aussi à la portée de nos concitoyens en termes de formation, d'accompagnement. C'est aussi un territoire qui doit permettre aussi aux entrepreneurs, d'ailleurs il y a le dispositif
Pleine Commune
Développement, qui permet aux personnes d'avoir, de créer leur entreprise et d'être accompagnées par cet outil qui permet de faire promouvoir toutes les entreprises qui sont créées sur le territoire. Et ça, je pense que ça peut vous donner un peu plus de visibilité. Et puis surtout, moi je pense qu'il y a un vrai enjeu sur comment Pleine Commune pourrait remailler un peu le tissu associatif, parce que c'est vrai que dans les conseils de représentativité,
conseil de
développement, c'était pas assez important. Moi, je pense qu'il faut aller plus vers le milieu associatif et voir comment on peut faire en sorte que ces assos puissent porter.
Il faut faire évoluer
ce
cette instance, mais
là-dessus.
Vaut mieux le faire évoluer et donner des moyens plutôt que de le supprimer et de ne rien faire à côté.
Ouais,
ça, c'était ce qui s'est passé lors du dernier mandat, et je pense qu'on a cette responsabilité-là. En tout cas, si on a envie d'être très, très concret, en lien avec les habitants et utile, et éviter qu'il y ait cette impression que c'est très flou et qu'il n'y a pas de réel intérêt, il faut que l'on ait une instance qui soit la plus forte et la plus locale, donc avec l'ensemble des habitants et l'ensemble des maires, des villes. En tout cas, il y a une représentation à avoir.
Alors, améliorer les conditions de vie des habitants, c'est quelque chose comme 70% de la population de pleine commune. 70%, c'est énorme. Alors, vous êtes une femme. On va parler des femmes solo, justement. Il y en a plein dans le 93.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a une action à privilégier, une action phare, Sophia Bautry? Je sais que vous êtes une féministe engagée.
À l'échelle de pleine commune, en fait, on pourrait imaginer. En tout cas, c'est pas une compétence directe, les familles monoparentales, mais en tout cas, il y a. Moi, je sais que c'était un sujet, notamment pour les femmes agentes du territoire, et c'est quelque chose sur lequel on pourrait aussi faire évoluer sur l'ensemble des villes du territoire. C'est la question de ce qu'on appelle le congé menstruel pour les femmes, pour pouvoir travailler et s'organiser en fonction des difficultés menstruelles qu'elles pourraient avoir et des maladies. Mais concrètement, sur la question des familles monoparentales, il y a un sujet notamment des activités, des actions qu'on peut mener sur la lecture publique avec des équipements et des médiathèques qui peuvent parfois être sur des horaires un peu plus différés, parce qu'il y a des femmes qui, avec leurs enfants, ne peuvent pas venir être présente, donc ça de toute façon c'est mené, mais ça, ce sujet-là est un peu plus porté par les villes et les acteurs associatifs qui sont en lien avec le territoire. Et après, il y a aussi un autre sujet, c'est pour pouvoir intégrer et accompagner au mieux les femmes monoparentales, c'est sur la question du logement. L'accès au logement, on sait que le logement est très cher, et de pouvoir faire en sorte d'avoir un certain niveau de construction de logement qui permette à des femmes seules qui dans leur vie se retrouvent en difficulté et pourront payer leur loyer et n'auront pas à partir habiter beaucoup plus loin que là où sont les activités de leurs enfants, par exemple que ce soit à Villetaneuse ou à Saint-Denis, il peut y avoir des parcours difficiles où les femmes se retrouvent à devoir partir au fin fond du 78 alors qu'elles ont tout en bas de chez elles.
Alors j'ai envie de vous dire, justement, vous avez du pain sur la planche là pour dans le cadre de pleine commune, Dionor, et le mot de la fin.
Mais c'est passionnant parce que moi je reprends, je reste, le service public c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et pleine commune joue aujourd'hui ce rôle aussi de vecteur d'égalité territoriale, et je suis d'accord sur la problématique aussi des femmes seules aussi qui doivent s'organiser pour la politique de logement, c'est l'emploi de proximité aussi, quand je vois le nombre d'agents qui travaillent notamment dans nos équipements, nos médiathèques, qui habitent aussi à proximité, qui peuvent organiser leur vie sociale, et comment on peut mieux les accompagner, notamment sur la stratégie de l'habitat qu'on construit avec nos services aménagement et urbanisme. Donc, ce sont des vrais enjeux qui sont bien sûr passionnants, et c'est la continuité aussi du rôle des maires et des élus de porter à l'échelle de l'EPT tous ces enjeux avec plus de moyens, mais aussi plus de ressources que les villes transfèrent aussi.
On pour va avoir le mieux agir ensemble.
Toujours le mieux.
Voilà. Bien sûr, mais en fait, c'est la force du nombre. C'est la force du nombre. C'est-à-dire que si les villes se rassemblent, c'est pas pour se taper dessus, je dirais, ou être dans un esprit de compétition pleine commune. Il y a des organisations politiques différentes, il y a des obédiences différentes, mais en tout cas, il y a cette volonté de se rassembler pour trouver des intérêts communs et pour améliorer le quotidien des habitants par rapport au programme de chaque maire, parce qu'il y a aussi ce respect-là.
C'est fondamental.
C'est le respect aussi des différents programmes qui ont gagné.
On
et donc, que ce soit chez nous à Saint-Denis ou...
Ah oui, tout à fait, la légitimité à ce niveau-là.
Mais le débat doit exister dans les différents sujets dogmatiques, mais par contre, l'intérêt commun doit prévaloir.
Alors, ça aurait pu être le mot de la fin avec vous, Sophia Bautry. Peut-être le mot de la fin avec vous, Sophia, sur la fête de l'humain, parce que là, vous êtes la première femme qui dirige cette superbe grande fête. Et
tout à fait. J'espère
que ça va durer, parce que l'année dernière, vous avez eu du mal, parce qu'il y a un problème, le nerf de la guerre.
On a eu,
est-ce que cette année, justement, elle va se faire comme prévu en septembre, la fête de l'humain?
Elle va se faire. On a eu une difficulté, effectivement, pour lancer les travaux financiers. Et puis, grâce au soutien et la souscription, on a pu lancer cette édition, 90e. On a eu une édition record. Pour la première fois, la fête de l'humanité à Brétigny a fait 610 000 personnes sur 3 jours. On a dû arrêter la billetterie. Là, aujourd'hui, la billetterie fonctionne bien. N'hésitez pas à prendre vos billets. Nous sommes à un billet à 65 jours, tout à fait.
Sur Radio Orion.
C'est 65€ les 3 jours, 3 jours de concerts, de débats, d'animation, de stands du monde entier, mais aussi de toute la France. C'est entre le 11, 12 et 13 septembre à Brétigny-sur-Orge et au Plessis-Pâté. On compte sur vous et j'espère que cette édition, en tout cas si vous prenez vos billets, elle se fera.
Alors l'information est passée et on aura le plaisir, bien sûr, de vous recevoir à la rentrée.
Avec plaisir, j'ai plein de, plein de détails, de personnalités politiques qui seront présentes, d'artistes et de belles organisations aussi internationales.
Merci Sophia Beautry d'être venue dans nos studios, merci à vous Dionor Excellent. Merci à vous, amis auditeurs, de nous rester fidèles et je vous souhaite une très bonne écoute.
À visage découvert, une émission où les femmes et les hommes politiques dévoilent sans filtre leurs valeurs et leurs ambitions. À visage découvert, c'est un rendez-vous d'information proposé et présenté par Nadia Behr.